Salut, c'est Steven Jambeau de l'Atelier des médias. On est ensemble pendant 20 minutes à la radio, plus encore si vous avez choisi notre podcast. Les réseaux sociaux font pleinement partie de nos vies. Ma vie sur les réseaux sociaux, c'était le thème d'un appel à projet de l'Atelier de l'audiovisuel public qui rassemble les groupes de médias publics français, dont RFI. Aujourd'hui, Élodie Font vient nous parler de Double Vie, un podcast fruit de 6 mois d'enquête sur ce que l'on cache sur les réseaux sociaux pour le meilleur et parfois pour le pire. Mais tout de suite, on va se plonger dans le téléphone portable des jeunes de 18 ans.
On a vu avec la marche pour le climat et tout, les jeunes, c'est eux qui doivent changer.
J'ai des abonnés à 24 000. On s'imagine pas qu'on a 24 000 personnes derrière un écran qui regardent.
Je déteste les journaux qu'on doit s'abonner pour pouvoir s'informer. Je trouve pas ça normal en fait.
Stendhal. Il n'y a aucun auteur qui pour moi est supérieur.
Je suis une femme, j'ai un corps de femme, mais je connais pas mon corps et c'est ça qui est un peu surprenant.
Quand le mouvement des Gilets jaunes est arrivé, mais je l'ai pris comme une vraie chance de pouvoir faire des actions, aider les gens concrètement.
Avant mes 22 ans, j'ai envie de moi faire genre 50 pays. Parce que sinon, je sais pas, j'aurais vécu pour rien.
Bon, ça peut paraître paradoxal, mais j'apprends plus en dehors de l'école qu'à l'école. Pourquoi ? Parce que je le fais avec la passion.
L'Atelier des médias. Bonjour Shehrazad Chikaïk.
Bonjour Steven.
Vous avez réalisé avec Antoine Schirrer un projet intitulé « Dans ton tel », produit par Upian. On vient d'en entendre un extrait. Alors le concept, ce sont des petites vidéos de 5 minutes, c'est bien cela ?
En moyenne.
Des interviews face caméra, où l'interviewé regarde, nous spectateurs. Ce sont des jeunes qui ont 18 ans, autour de 18 ans, et l'idée c'est de savoir comment ils utilisent leur téléphone portable. Ils sont filmés en studio, ont leur téléphone à la main, celui qu'ils ont au quotidien, et on les voit le manipuler. Et leur écran s'affiche en grand à l'image pour qu'on puisse le voir. Pouvez-vous nous expliquer d'où est partie cette idée, en fait ?
Il y a une longue réflexion derrière ça, et c'est né d'abord de mon expérience en tant que journaliste et aussi en tant que journaliste qui intervient beaucoup dans des classes auprès de jeunes adultes ou adolescents. Et donc, très souvent, j'ai entendu beaucoup de fantasmes, d'idées reçues sur la manière dont ces jeunes pouvaient utiliser leur téléphone. Et c'était pas du tout ce à quoi j'étais confrontée, moi, quand je l'ai rencontré. J'avais l'impression de découvrir à chaque fois des nouvelles manières de s'informer, d'apprendre des nouvelles applis, de voir aussi des nouveaux chemins d'information qui étaient très différents des miens. Et donc, c'était une découverte permanente et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de le documenter un jour ou l'autre. Et Antoine, qui est donc le co-réalisateur de cette série, avait au même moment que moi très envie de faire du documentaire. Et donc, on s'est retrouvés sur cette idée d'aller documenter ces pratiques. Et sur le programme en lui-même, l'idée de mettre à l'écran le téléphone a mis un petit peu de temps à germer. Mais une fois que c'est arrivé, c'est devenu une évidence parce que on s'est dit c'est vraiment une opportunité de plonger dans l'intimité. Et en même temps, il y a un côté assez voyeur finalement dans ce programme, et en même temps une forme de pudeur à les suivre, à comprendre un peu comment ils réfléchissent. Et puis eux sont assez généreux aussi. Ils nous ont vraiment ouvert leur téléphone sans filtre. Du coup, c'était très 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 enrichissant pour nous.
On va y revenir justement. Essayons de recontextualiser ce projet. Il a vu le jour dans le cadre de ce qu'on appelle l'atelier de l'audiovisuel public. C'est une action conjointe des entreprises de l'audiovisuel public français, dont RFI. Le thème, c'était ma vie sur les réseaux sociaux. Et là, on se rend compte qu'on va un petit peu plus loin. On est dans la vie tout court.
Oui, c'est assez vrai. En tout cas, nous, quand on a vu passer cet appel à projet, on l'a lu en se disant, mais on coche toutes les cases, donc il faut qu'on y aille. C'est tout fait, c'est tout pile pour le projet qu'on a dans la tête. Donc, on y est allé comme ça, et il se trouve qu'on a fait partie des projets retenus, donc on en était très contents, très fiers. Derrière, il y a eu encore une phase de travail qui a duré plusieurs mois. Et oui, c'est la vie tout court, parce que on aborde effectivement un certain nombre d'usages et de pratiques, mais au-delà des aspects techniques et des différentes applis qu'on peut voir défiler dans les téléphones de ces ados, on se rend d'abord compte qu'en fait, ce sont des jeunes qui se construisent et qui du coup réfléchissent au monde qui les entoure. se posent plein de questions, ont parfois envie d'agir et leur téléphone peut leur permettre un certain nombre de choses très concrètes dans leur vie du quotidien.
Alors on a par exemple Meriem qui a 18 ans, qui construit son identité féminine notamment en consultant des comptes et des stories sur Instagram. On a aussi Héloïse par exemple, 17 ans, qui veut être actrice du changement. Elle est profondément écolo, elle nous parle de la campagne On est prêt, dont on recevait d'ailleurs l'organisatrice la semaine dernière dans l'atelier des médias. Elle consomme autrement, achète ses habits ou vend ses livres autrement. Quand elle va dans un supermarché, elle utilise une application comme Yuka pour scanner les codes barres et voir si c'est bon ou mauvais pour la santé. Ouais, c'est la vie au global. Et il y a en fait autant d'usages du smartphone que de jeunes en fait. Là, on a 8 portraits et chacun a des choses à nous apprendre, des choses à nous montrer.
C'était aussi un des objectifs de la série, donc tant mieux si c'est réussi, parce que c'est très difficile, c'est même impossible de dire les jeunes utilisent leur téléphone de telle ou telle manière, parce qu'effectivement, chacun va avoir un usage très propre, et donc c'est aussi ce que montre la série, et donc le côté un peu une espèce de panel qui fait que on se rend compte en les regardant que on peut pas en tirer une seule conclusion, si ce n'est qu'ils sont tous très curieux et que c'est très chouette de les suivre dans leur téléphone, mais il n'y a pas un usage propre, donc ça c'est tant mieux si ça ressort du programme.
Il y a un portrait qui m'a particulièrement touché, ou en tout cas qui a attiré mon attention ici pour l'atelier des médias sur RFI, c'est celui de Josia qui a 18 ans et qui a sa façon bien à elle de s'informer. On l'écoute.
Direct, j'ouvre et je vois un média, enfin une information. Et c'est souvent comme sur Facebook, j'utilise que pour ça en fait. C'est là où je m'informe le plus. Il y a des infos vraies, il y a des infos fausses, il y a des putaclics, il y a un peu de tout en fait. J'ai vu un truc à Sri Lanka avec le nombre de blessés de mort et du coup j'ai voulu me renseigner plus. En général, je n'ouvre pas, je regarde la photo et le grand titre, je ferme et je vais sur Internet. Et là, je m'informe sur tout. Je vais essayer de voir pourquoi ils ont fait ça, quand, combien de victimes, combien de blessés. Genre là, j'étais sur LCI. Je vais tout lire, ensuite 20 minutes parce que j'ai confiance aussi. Et un peu sur tous les sites, jusqu'à me faire mon propre avis, ma propre opinion en fait. Après, même s'il y a un site qui me paraît vrai mais qui au final est faux, je vais le remarquer parce que si c'est des choses complètement différentes sur un site et les autres ils disent tous le même, ce sera forcément pas un bon site en fait. Quand je trouve que c'est pas assez vrai, je clique pas en fait. Mais là, ça, je sais que ça vient de Mediapart, donc je clique, c'est obligé. Mais ça par contre c'est trop chiant, s'abonner. Même s'ils disent premier mois gratuit, je dois pas payer pour m'informer. Enfin, y en a qui donnent des journaux dans la rue comme ça, et y en a qui font payer. Enfin, autant rester sans rien savoir sur le monde. Si je comprends bien, faut même payer pour pouvoir être au courant. Je trouve pas ça normal.
C'est pas normal de payer pour s'informer.
Ce qui est intéressant avec Josia, c'est qu'en fait, elle le dit très naturellement, mais on se rend compte qu'il y a plein de gens autour de nous qui pensent la même chose que Josia et qui trouvent pas normal de payer pour s'informer. Donc c'est une vraie question en fait, et c'est ça qui est intéressant dans ce moment, c'est qu'elle soulève un sujet qui du coup forcément intéresse beaucoup les journalistes, parce que c'est notre avenir, donc c'est notre métier dont il est question. Donc voilà. Mais oui, c'est un vrai enjeu aujourd'hui. Est-ce que on doit payer pour s'informer à l'heure d'Internet où on a accès à beaucoup de savoir en ligne de manière gratuite pour beaucoup de contenu. Donc
alors, vous êtes journaliste pigiste, justement, donc cet écosystème médiatique et ses impacts, vous en êtes bien consciente au quotidien. Vous êtes basée à Lille, vous travaillez essentiellement pour Libération, mais vous êtes également intervenante dans de l'éducation aux médias. C'est important pour vous d'avoir ces deux casquettes et de les conjuguer et de passer de l'une à l'autre pour justement transmettre et pouvoir faire de façon entière votre métier de journaliste?
Je dirais même qu'aujourd'hui, les deux casquettes se nourrissent en fait. C'est-à-dire que le fait d'intervenir dans des classes auprès d'un public qui n'est pas forcément aussi conscient que moi des enjeux autour de la liberté de l'information, de la liberté de la presse, des enjeux pour faire vivre les médias, etc. dans notre société, fait que je suis confrontée à des regards aussi et des questions que moi je me pose peut-être plus. Et donc, ça nourrit aussi mon travail de journaliste. Ça m'aide à me positionner parfois différemment sur certains sujets. Quand on discute de la manière dont sont traités certains sujets de société dans l'univers médiatique avec des ados qui ont 14-15 ans, eux accordent pas la même importance, ou enfin donnent une autre importance aux mots, au choix des images, à la manière dont parfois on a un effet de traitement moutonnier de l'information. Et donc, du coup, moi, ça me nourrit aussi dans mon quotidien de journaliste, et ça m'aide à réfléchir en permanence à, tiens, comment je peux traiter ce sujet, comment je peux me mettre à hauteur aussi de tous, voilà, quels sont les mots que je peux utiliser pour que je sois comprise par le plus grand nombre sur un sujet qui peut être hyper abstrait, ou voilà, ou comment je peux éviter d'utiliser certains mots qui sont aujourd'hui très connotés et qui, en fait, ne disent pas vraiment une réalité. Donc voilà, c'est des questions en permanence, et donc c'est très chouette. Et du coup, je pense que l'éducation aux médias, le fait d'intervenir dans le domaine de l'éducation aux médias, fait qu'aujourd'hui, j'ai l'impression d'être une autre journaliste qu'avant d'avoir commencé ces interventions.
Ce qui est intéressant aussi, c'est que se dégage une certaine maturité de la part de tous ces jeunes-là que vous avez interviewés, pas toujours où on l'attend, mais qu'ils ont des choses à apprendre aux adultes sur les choses de la vie, en fait, et qu'il ne faut pas les regarder de haut, en fait, d'une certaine façon. Est-ce qu'il y a justement des usages que vous avez réellement découverts en réalisant dans ton tel, des choses que vous ignoriez totalement venant de jeunes de 17, 18, 19 ans?
Alors, pour chacun, il y aurait des choses à dire. Il y a des choses très anecdotiques, rigolotes. Sur Myriam, par exemple, moi, la SMR, je ne connaissais absolument pas la SMR, donc j'ai complètement découvert. Et quand elle nous dit en direct, et ça, ça fait 26 millions de vues. Et là, on se dit, ok, et moi, mes articles, ils font combien? Et donc, bon, des fois, on se prend, donc faut comparer ce qui est comparable, mais des fois, on se prend aussi des trucs dans la figure, on se dit, bon, ça nous remet bien en question. Après, il y a des choses qu'on découvre aussi. Moi, Bastien, je le trouve fascinant dans sa manière d'avoir conscience à la fois d'une image publique qu'il est en train de fabriquer, et en même temps d'essayer de garder un peu de recul sur tout ça et de se dire bon, bah là j'ai fait un demi-million de vues, mais voilà, la vie c'est pas que ça, donc oui, il y a de la maturité. Ils ont 16 ans, ils ont 17 ans, faut pas l'oublier, et en même temps ils ont déjà une forme de grande maturité dans leur regard sur leur propre pratique. Donc
ben, Bastien par exemple, 17 ans, qui fait des sketchs pour ses 24 000 abonnés sur TikTok, alors il essaye de garder la tête froide, mais quand on entend parler, c'est un entrepreneur, en fait.
Bien
il parle
sûr.
De contenu, il se sent obligé de produire pour sa communauté, de faire des concours, etc. Ouais, professionnel, en fait.
Et c'est très exigeant, en fait, ce que fait Bastien, et demande beaucoup, beaucoup de rigueur et d'investissement. Et donc, c'est pas du tout quelque chose qu'il fait de manière... voilà, sans y réfléchir. Au contraire, il prend beaucoup de temps à réfléchir à ses clips, à la manière dont il va les monter, à la manière dont il va les diffuser derrière, aux différents hashtags qu'il va pouvoir mettre dessus pour en faire la promotion. Donc tout est réfléchi, et du coup ça prend une autre dimension que des jeunes qui font les rigolos devant leur téléphone, quoi.
Alors essayons maintenant de faire une interview dans ton tel de Sherazade Chekaïk. Êtes-vous abonné à des médias en ligne?
Oui.
Beaucoup?
Mediapart, Libé, mais ça compte pas trop. J'y travaille un petit peu. Et puis après, on mutualise parfois des abonnements sur certains médias. Donc je sais pas trop s'il faut.
Avez-vous déjà partagé des fake news?
C'est une très bonne question. J'essaie de faire forcément très attention à ça, à la fois en tant que journaliste, mais aussi en tant que citoyenne. Mais je pense que ça a déjà pu m'arriver. C'est même certain, et il faut le reconnaître, de partager des choses trop rapidement et de se dire « Oula, mais attends, j'ai pas regardé en fait. » Donc de vérifier derrière, et même de supprimer parfois des trucs.
Votre téléphone vous sert-il aussi à jouer?
Non.
Pourquoi?
Parce que j'ai pas le temps. Mon jeu, c'est Twitter.
Quelle messagerie utilisez-vous de préférence pour communiquer?
En fait, je les utilise toutes, et pour des usages différents. Les mails, ça va être très professionnel. Le SMS, ça peut être du professionnel, mais pour aller vite, plus vite. Et après, j'utilise d'autres messageries. J'utilise Signal dans des cas assez précis, souvent pour communiquer d'ailleurs avec des très proches. Ou...
C'est une messagerie cryptée, un petit peu comme Telegram.
Oui, voilà. Donc c'est plus sur certains sujets, ça peut m'arriver d'utiliser de temps en temps. Et après, WhatsApp, c'est pour discuter avec la famille.
La double authentification, ça vous parle ?
Oui, j'utilise.
Quelle est la prochaine application que vous allez désinstaller ?
Je pense que je vais désinstaller les applications de consommation, en fait. Parce que j'avais installé beaucoup d'applications de vente privée que je n'utilise pas du tout et qui me prennent beaucoup de place. Et du coup, je pense que ça va être celle que je vais nettoyer bientôt.
Alors, dans Tontel, c'est pour l'instant 8 vidéos de 5 minutes qui sont disponibles gratuitement sur Internet. Vous en avez d'autres en stock ?
Alors, pour l'instant, non. Mais on serait très partant pour une autre saison. Et on serait même très partant pour une saison qui pourrait aller explorer d'autres tranches d'âge. Parce qu'on se dit que ça pourrait être assez intéressant d'aller dans l'hôtel, justement, des plus âgés, des parents, voire des grands-parents. Ça pourrait être assez fun. Donc, c'est pas prévu, mais pourquoi pas.
Merci beaucoup, Sherazade Chekaïk, et bravo à vous et Antoine Schirer, avec qui vous avez réalisé Dans ton tel, produit par Rupian, avec le soutien de l'audiovisuel public français. À bientôt.
Merci, à bientôt.
http://atelier.rfi.fr.
Si je vous dis influenceur sur les réseaux sociaux, ça vous parle ? Le mondoblogueur ivoirien Benjamin Yoboué ne peut s'empêcher de rire de ce phénomène bien actuel.
Ma mère a tendance à plaisanter sur la politique. Pour elle, chaque président est lié à une marque qui le symbolise. Par exemple, elle attribue toujours des phénomènes comme l'arrivée des cabines téléphoniques à tel parti politique ou à tel président. Je ris toujours en l'écoutant. Hier, elle attire mon attention sur un phénomène particulier, l'avènement des coachs de vie et des influenceurs 2.0. Ils sont légion sur la toile ivoirienne et pas que. Comme vous, j'en connais un bon nombre. Certains se sont rendus célèbres grâce à des vidéos marrantes ou grâce à des polémiques. À défaut d'avoir toujours des compétences, puisque ce n'est pas forcément le cas, l'influenceur se doit au moins de fédérer autour de lui. Sans grosse communauté d'abonnés, pas d'influence. Il faut tenir la distance aussi et l'influenceur du moment peut vite être oublié et remplacé par un autre.
Qui sont ces influenceurs en herbe ? C'est notre grande enquête et elle est grand format, signée Mathieu Poissonnet, Stéphane Deperroy et Sébastien Madouze.
En regardant la télévision l'autre jour, j'ai vu un reportage sur un rassemblement d'influenceurs dans un quartier chic de la capitale française. C'était pour la plupart des adolescents et je me marrais de certaines réponses données aux journalistes qui les questionnaient. Cet adolescent n'a finalement jamais parlé de ce qu'il voulait transmettre, des valeurs sur lesquelles il voulait influencer. Historiquement, l'influenceur, c'était un personnage populaire, un politicien ou un artiste. Son expérience, son œuvre, sa connaissance lui valaient d'être respecté, écouté et donc suivi. Son propos se devait être le plus vrai possible, authentique. C'était la base de sa crédibilité. Mais depuis les réseaux sociaux, les influenceurs n'influencent plus forcément par la qualité de leurs discours. Leur influence est centrée sur leur capacité à divertir, leur aptitude à s'aligner aux désirs de leurs fans. Il me semble important que chacun sache bien quel est son rôle. Blogueur, journaliste, entrepreneur, coach ou influenceur, si des gens nous suivent, cela veut dire que nous avons probablement un impact sur eux, sur leurs décisions. Il faut que nous en ayons conscience et que nous nous questionnions sur notre responsabilité quand nous publions ou postons une vidéo. Et dernier point, il est important pour chacun d'entre nous d'accepter dans l'humilité les critiques des abonnés. Cela fait partie du jeu. Qui aime bien, châtie bien.
Mondoblog.org.
C'était les bons conseils de Benjamin Yoboué du blog Pigistalement Vôtre. Rendez-vous sur mondoblog.org pour entendre nos blogueurs francophones donner de la voix sur les sujets qui les inspirent. On a maintenant rendez-vous avec Élodie Font et son projet Double Vie.
RFI.
Plus j'ai d'abonnés, plus je fais attention.
Il y a deux identités et c'est pas la même personne.
J'ouvre beaucoup ma gueule et je veux que ça n'engage que moi.
Mais quelque part, il y a un écran entre Cécile Duflo et moi. Et Cécile Duflo forme écran.
C'est tout le paradoxe qu'on essaie de mettre en place. Réussir à maîtriser notre image tout en n'étant pas artificiel.
Ouais, en fait, Internet, tu vois, c'est vraiment... tout est possible, quoi.
Il n'y avait pas de filtre, du coup.
Je m'étais quand même un peu laissé aller, à mon avis, dans ce double jeu.
C'est Twitter qui va juger, finalement.
Je sais même pas combien de gens seraient prêts à me tuer si jamais je donnais mon adresse, en fait.
Se mettre sur Facebook et deux mois après rencontrer la personne de sa vie. Je trouve ça fou, quoi.
C'est totalement schizo.
Et j'ai eu une double vie comme ça, et sur Internet, et en vrai.
Et aujourd'hui, ben, en fait, je me rends compte que oui, je suis. En fait, ce personnage, c'est moi.
À suivre sur arteradio.com.
Bonjour Élodie Font.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, documentariste et chargée de programme dans l'unité documentaire d'Arte. Alors si on vous reçoit aujourd'hui, c'est parce que vous signez Double Vie, une série audio qui est produite par l'INA et diffusée sur Arte Radio. Le tout est accompagné de stories Instagram. Cela parle de nos identités multiples, de nos identités à la fois dans la vie réelle et dans la vie numérique. Et parfois nous en avons plusieurs dans la vie numérique. Pour cela, vous avez enquêté pendant 6 mois.
Six mois.
Donc 6 mois de travail intense, 6 mois d'interview pour rencontrer des gens et qu'ils vous racontent la façon dont ils utilisaient les réseaux sociaux au quotidien et l'impact que cela avait sur leur vie. Expliquez-nous comment est-ce que tout cela a démarré.
Ça a démarré pour répondre à l'appel à projet du service public qui concernait ma vie sur les réseaux sociaux. J'ai réfléchi et je me suis dit, tiens, j'ai envie de savoir, j'ai envie de creuser cette idée d'identité sur les réseaux et le fait qu'on soit pas exactement les mêmes, on va dire hors réseau et sur les réseaux. D'ailleurs, quand j'ai commencé à réfléchir à ça, je me disais, on n'est pas pareil dans la réalité et dans le virtuel, enfin je faisais le réel virtuel, cette distinction. Et en travaillant en fait sur ce sujet, je me suis rendu compte qu'on pouvait plus du tout parler de réalité et enfin que le réel ce serait d'un côté et le virtuel de l'autre. C'est-à-dire aujourd'hui, ce qu'on dit sur les réseaux, c'est très réel. Et ça j'ai trouvé que c'était très très intéressant à creuser. Et puis après, ça s'est fait vraiment au fur et à mesure des rencontres. Je crois que le premier que j'ai interviewé, c'est Dieu. Qui apparaît dans le premier épisode.
Donc quelqu'un qui a un compte Twitter qui s'appelle Dieu Off.
Exactement.
Pour Dieu officiel, où il une personne qui s'amuse chaque jour à eh bien à raconter des choses drôles et pas drôles d'ailleurs toujours. Enfin si c'est toujours c'est quand même assez humoristique sur ce que dirait Dieu ou ce qu'on pense
Dieu.
Là-haut voilà.
Et c'est un compte qui grandit à une vitesse folle parce que quand je l'ai rencontré donc en janvier dernier il en était à 200 000 followers sur Twitter et là il en est à 500 000 abonnés. Donc 500 000 personnes qui le suivent, sans compter d'ailleurs tous ceux qui peuvent aller voir sans avoir un compte Twitter, puisque Twitter, on peut aller voir ce qu'écrivent les gens sans même être abonné au réseau social. Et donc 500 000 personnes, c'est quand même assez dingue. Alors évidemment, il n'y a pas 500 000 personnes derrière leur écran à chaque fois qu'ils tweetent quelque chose, mais quand même, c'est conséquent. Et moi, la question que j'avais envie de me poser, et de leur poser surtout, c'était, quand on a autant de gens qui nous suivent, c'est quoi l'impact sur la vie au quotidien? Est-ce que ça change quelque chose pour les gens quand ils rentrent chez eux, quand ils se couchent, quand ils éteignent leur téléphone? Qu'est-ce que ça change en fait d'avoir autant de gens qui vous suivent?
Alors le premier des 5 épisodes de Double Vie s'intitule Métamorphose, célèbre sous pseudo justement, ces gens qui décident de se créer ou de développer leur personnage en ligne. Et derrière Dieu officiel justement, qui a-t-il? C'est juste quelqu'un qui, c'est un hobby pour lui.
Alors lui, il parle carrément de travail, parce que ça représente, d'alimenter ce compte, ça représente un mi-temps. Ça représente un mi-temps dans une semaine. Faut quand même se rendre compte de ce que c'est pour la vie des gens. C'est-à-dire, c'est pas juste je fais 3 blagues et puis il y a 3-4 copains qui sont au courant. Non, c'est vraiment une implication parce que pour lui, c'est comme une espèce de mini entreprise où il est le chef en fait. Il est le chef et donc il peut petit à petit faire grandir son entreprise, se demander justement comment la faire grandir et puis aussi se demander comment des gens pourraient se dire tiens ce gars est drôle et donc est-ce que je pourrais l'embaucher pour écrire des sketchs, voilà ça pourrait aussi être ça. Donc lui c'est même pas un hobby, c'est beaucoup plus que ça. Monsieur le prof qui a aussi 500 000 personnes qui le suivent sur Twitter, un peu moins sur Facebook si je dis pas n'importe quoi, lui pour le coup il a vraiment essayé de faire en sorte que ce soit sur son heure de pause le midi, puisqu'il est vraiment prof dans la vie, pour que tout ça fasse aussi partie de son travail et que quand il rentre chez lui le soir, il arrête. Et il n'est plus ni monsieur le prof pour les élèves, ni monsieur le prof pour les gens sur les réseaux.
Alors là, ce sont des gens ordinaires, mais vous avez aussi interviewé des personnalités comme Cécile Duflo, femme politique française, qui a été ministre de l'écologie en France. Et elle, justement, pourquoi avoir sollicité des personnes comme elle, qui sont des personnalités publiques, en fait, hein ?
Parce que ça fait longtemps que je la suis sur les réseaux, qu'elle y était quand même avant beaucoup d'hommes et de femmes politiques. Donc déjà, je trouvais qu'elle avait une légitimité pour parler de ce qu'elle était sur les réseaux, puisque ça fait très longtemps qu'elle y est.
Et que c'est elle-même qui prend en charge
Exactement.
Son compte Twitter, ce n'est pas une équipe de communication derrière.
Oui, alors que elle le dit, on lui a souvent conseillé de le faire, qu'il y ait des gens qui s'en occupent pour elle, mais elle s'est dit, bah non, c'est quoi l'intérêt d'avoir un compte en mon nom si c'est pas moi qui tweet ou qui met des posts sur Instagram. Et ce qui m'intéressait aussi avec son parcours à Cécile Duflo, c'est qu'elle a beaucoup été harcelée sur les réseaux, et ça m'intéressait d'avoir une voix comme la sienne qui porte, et j'avais envie de l'entendre, de savoir, même quand on est une personnalité politique, même quand finalement votre image ne vous appartient plus complètement, et ben justement quel est l'impact du harcèlement sur des gens comme ça. Et j'avais un peu peur qu'elle dise non, et elle a dit oui assez vite. Et je trouve que vraiment elle dit des choses, il y a pas de langue de bois dans ce qu'elle dit. Enfin, elle a vraiment joué le jeu, en tout cas, de se dire, si j'accepte de témoigner, je témoigne pour de vrai.
Le troisième épisode de Double Vie s'intitule La Meute. C'est cet effet de groupe et de harcèlement vers plusieurs personnes, une communauté qui est courant sur Internet et là qui a vraiment été créé et qui s'est développé avec les réseaux. Mmh. Et donc là, pour le coup, vous êtes spécifiquement intéressé aux victimes, c'est ça ?
Dans La Meute, en fait, j'avais aussi envie qu'on entende des gens qui expriment leur violence sous pseudo pour la plupart, hein. C'est rare quand même qu'on soit extrêmement violent sur les réseaux en utilisant son propre nom et son propre prénom, mais c'est parfois le cas. Et ce que j'avais envie qu'on entende, c'est ces deux aspects, c'est-à-dire l'aspect un des gens qui parfois sans même trop s'en rendre compte d'ailleurs, enfin, ils ont vraiment l'impression d'être dans leur bon droit, je dirais. Il y a toute une partie des gens qui expriment de la violence, et j'avais envie qu'on les entende, déjà, ces gens-là. C'est pas très clair ce que je dis, mais qu'on entende, voilà, ces gens qui s'expriment avec violence et qui n'ont pas toujours
conscience.
L'impression, voilà, toujours conscience de le faire. J'ai compris aussi en faisant ce documentaire qu'on était tous le troll de quelqu'un. C'est-à-dire, moi, parfois, j'ai l'impression de tweeter des choses qui me semblent être du bon sens. Or, pour quelqu'un en face de moi qui ne pense pas comme moi, mon tweet, mon message sur Facebook va paraître hyper putassier, en fait. Donc ça va être un premier volet. Et l'autre volet qui m'intéressait dans La Meute, c'était le côté... finalement, on a tous un peu envie de voir des mises à mort. C'est-à-dire, quand il y a quelqu'un qui se prend un torrent d'insultes sur les réseaux, donc sur les réseaux on appelle ça un shitstorm.
Un torrent de merde,
voilà,
en fait.
Voilà, un torrent de merde. On a tous aussi un peu envie de savoir ce qui se passe. C'est ce qui s'est passé au moment de la Ligue du LOL en février dernier, avec ces journalistes soupçonnés de cyberharcèlement. Et moi, par exemple, j'ai passé 3 jours à rafraîchir ma page en permanence pour savoir ce qui s'était passé. Et je me suis dit, mais tu fais vraiment partie d'une meute qui attend une mise à mort que Internet décide dans son jugement dernier de qui est vivant et qui est mort. Voilà.
Et donc, en gros, cette série aussi interroge et nous fait nous interroger sur la question de l'anonymat et du pseudonymat sur Internet. Est-ce que vous, en réalisant cette enquête, vous avez évolué sur cette question ?
Oui, ça m'a fait beaucoup réfléchir. Déjà parce que je m'étais jamais rendu compte à quel point il y a des gens qui sont sous pseudo sur les réseaux pour, j'allais dire, de vraies raisons. C'est-à-dire de...
Pour se protéger.
Pour se protéger, voilà. Qu'il y a déjà beaucoup de gens qui le font pour ça. Il y a aussi beaucoup de gens qui s'expriment d'une manière beaucoup plus libre. Ça paraît un peu logique ce que je dis, mais vraiment, qui ont l'impression que leur identité de tous les jours, de leur identité administrative, on va dire, ne leur appartient pas sur les réseaux parce que, par exemple, elle appartient à leur entreprise. Que leur nom et leur prénom est sur LinkedIn, et que LinkedIn, c'est le réseau où on sait pour quelle entreprise vous travaillez, et que derrière, ils peuvent pas dire ce qu'ils pensent avec leur nom et leur prénom sur Internet. Et ça, j'avoue qu'à ce point-là, j'y avais pas réfléchi. Et puis, ça m'a aussi beaucoup questionnée sur le jeu de masques, à quel point les gens peuvent réfléchir autour de cette question de l'identité et à quel point, finalement, ils s'y sentent plus eux-mêmes.
Donc, c'est bien qu'il y ait un petit peu tout. Il faut tout pour faire un monde. Il faut que tout un chacun puisse s'exprimer, toutes les opinions puissent aussi s'exprimer. Et pour ça, l'anonymat ou le pseudonymat le permettent d'une certaine façon. C'est un petit peu ça.
Oui. Oui, oui, et c'est vrai qu'on entend souvent, hyper régulièrement, le débat sur l'anonymat sur Internet, qu'il faudrait faire en sorte que plus personne ne puisse être anonyme sur Internet, puisque évidemment, l'anonymat, ça apporte aussi que des gens vont essayer de recruter, par exemple, pour des sectes, pour les milieux terroristes, quels qu'ils soient, et ça, évidemment, ça passe aussi par l'anonymat. Donc ça, c'est très problématique, mais dans ma série, effectivement, je voulais aussi montrer que c'est pas aussi simple que ça. De toute façon, c'est jamais aussi simpliste que ça, et sur Internet et partout ailleurs. Donc c'est pas une loi qui changerait les choses et qui se dira super, on a éradiqué l'anonymat sur Internet, donc il y a plus de terroristes. Ce serait absurde. Et en même temps, ça empêcherait quand même beaucoup de gens d'exprimer des choses. Je parlais de l'entreprise tout à l'heure. Par exemple, ça empêcherait beaucoup de gens de parler de leur quotidien dans tout un tas de métiers où on ne peut pas s'exprimer parce qu'on n'en a pas le droit, par exemple, parce qu'on est tenu au secret professionnel. Et par exemple, sur les réseaux, si les gens sont anonymes, ils peuvent exprimer quelque chose de cette réalité-là et, mine de rien, en fait, nous en apprendre beaucoup. Donc évidemment, il y a du blanc, il y a du noir. C'est toujours un peu la même chose, quoi.
Parlons maintenant du format. C'est un podcast, c'est une série audio. C'est plus facile de réaliser peut-être une série audio sur ce sujet-là que d'essayer de faire un documentaire télé où justement les gens n'ont pas envie de se livrer à visage découvert. Et là, ils se livrent d'une certaine façon, pour certains, à cœur ouvert.
Oui. Alors moi, c'est vrai que de toute façon, j'ai toujours fait du documentaire audio parce que pour moi, c'est pas vous qui allez me dire l'inverse, probablement, pour moi, la radio, c'est vraiment le média de l'intime. Et donc, ça offre la possibilité, effectivement, pour les gens de livrer quelque chose en se sentant un petit peu moins agressé par une caméra. En tout cas, c'est moins visible, probablement, donc c'est plus facile de créer une intimité. Après, ça a mis du temps, hein, parce que pour la plupart des gens, vous les entendez 10 minutes à peu près dans le documentaire, ce qui est déjà pas mal pour un documentaire et pour de l'audio en général. Mais à chaque fois, j'y ai passé 1h30, 2h, 2h30 pour la plupart d'entre eux. Donc ça s'est fait aussi dans la durée pour les mettre à l'aise, pour que ils me racontent quelque chose d'eux qui leur semble juste et sincère. Donc moi, effectivement, l'audio, c'est le média qui me plaît le plus. Après, je pense que ça aurait pu aussi être fait en BD, par exemple. Effectivement, tous les médias où on peut un peu cacher la tête de la personne et donc la rendre un petit peu moins reconnaissable, effectivement, ça s'y prête davantage. Ouais.
Et vous respectez ou vous utilisez ce code du podcast qui est le fait de parler à la première personne?
Oui, ça, j'ai commencé ça il y a 2 ans, de faire des documentaires en parlant à la première personne, parce que je pense que quand on écoute du podcast, on a envie de savoir qui vous parle. Il y en a tellement, tellement, tellement de podcasts aujourd'hui que, je voulais dire, voilà d'où je vous parle, voilà qui je suis, et voilà ce que je vous propose comme série, mais c'est avec mon regard à moi de femme qui a 33 ans, qui habite une grande ville, qui est blanche. Je le dis pas comme ça, mais ce que je veux dire, c'est que je pense que c'est important de savoir de quel point de vue on part, et c'est vrai que je m'inscris assez bien dans ce qui se fait aujourd'hui en podcast, parce que effectivement, on est quand même nombreux à faire ça aujourd'hui en podcast.
C'est maintenant le moment de faire une interview double vie d'Élodie Font. Quel était votre premier pseudo sur Internet?
Est-ce que j'ai eu un pseudo sur Internet? J'avais des adresses mail complètement débiles, dont je ne me rappelle pas bien. J'espère que je vais être meilleur public que ça dans les prochaines questions. Je sais pas. Ah, parce qu'en fait, ça m'a toujours fait rigoler sur les autres, mais moi, j'avoue que j'ai toujours été assez transparente.
Votre première adresse mail, allez. Caramel.
Oui, c'était Caramel, ça c'est sûr. Non mais je vais vous dire n'importe quoi. Peut-être ça va me revenir au fur et à mesure de l'interview. Promis, si ça me revient, je vous le dis.
Alors, vous êtes-vous déjà créé un compte anonyme sur un réseau social pour vous inventer un personnage ?
Non, mais ça m'a donné envie, cette série. J'avais jamais réfléchi à ce point et je me suis dit, mais bien sûr que oui, il faut le faire. Donc, peut-être bientôt.
Elodie Font, @ElodieFont, est-il votre seul compte Twitter ?
Alors, c'est @ElodieFont. Parce que, je sais pas pourquoi, parce que c'était le seul qui était dispo au moment où j'ai créé mon compte. Et c'est le seul compte que j'ai sur Twitter, et ça me prend déjà bien assez de temps.
Êtes-vous satisfaite de votre identité en ligne ?
C'est une identité de travail. C'est une identité de travail, et puis depuis 2 ans, parce que j'ai sorti un podcast là-dessus, c'est très orienté sur l'homosexualité et le genre. Et donc j'ai une communauté autour de moi, enfin en tout cas, disons que moi j'ai l'impression de lire beaucoup de choses autour de ça et d'en recevoir aussi. Donc je dirais que c'est un compte pro et centré sur ma sexualité.
Êtes-vous satisfaite de votre réputation en ligne ?
Oui, j'ai pas grand-chose à dire sur ma réputation en ligne. Je crois qu'en fait je suis quand même totalement inconnue au bataillon, donc ma réputation est neutre.
Un internaute français passe en moyenne 1h22 par jour sur les réseaux sociaux. Et vous ?
Oh là là, mon Dieu, beaucoup plus.
Allez.
2 heures.
Ah, quand même.
Ouais. 2 heures, et je compte même pas mon écran. Mon écran, bah, je sais pas, 10 heures, 12 heures, c'est horrible. J'ai l'impression de passer ma vie sur un écran. Non, je suis complètement addict à mon téléphone, aux grandes dames des gens qui m'entourent.
Allez-vous partager le podcast de cette émission, de cet atelier des médias, pour votre personal branding ?
Bah oui, évidemment, je vais le faire, ouais. Je vais le faire parce qu'en plus, j'aime beaucoup cette émission, donc je suis hyper touchée d'y être. Et donc, ouais, je pense que je vais être fière de ça et je vais le mettre, très probablement.
Un moment ordinaire de la vie sauvage.
Les Français passent leur vie sur Internet.
Tous soumis à la même loi, manger et être mangé.
Quel mystérieux instinct pousse certains oiseaux à se regrouper ainsi en troupes immenses avant d'entamer leur migration ?
Si on vous dit qu'il s'agit du plus célèbre réseau social au monde, ce n'est peut-être pas très clair.
La peur de se perdre en route ? Le besoin de se défendre contre les prédateurs ?
Ce ne doit pas être une révolution qui se subisse, mais une évolution qui se prépare.
Chez les moitrieuses, la vie en commun représente la meilleure des protections pour l'avenir de l'espèce.
Il y a quelques mois, je suis partie à Istanbul, 3 semaines. Si j'avais voulu décrire mon séjour d'une façon objective, j'aurais pu écrire « À Istanbul, les couchers de soleil plongeant dans la mer, un thé à la main, sont inoubliables, mais je n'arrive pas à dormir parce que la vie a été un peu trop dense dernièrement et puis j'ai été malade parce que je crois que l'absorption de thé en grande quantité est antinomique avec la fragilité de mon estomac. » Sauf que sur les réseaux sociaux, j'ai, en quelque sorte, recadré la réalité.
Alors c'est de la radio aussi, on peut parler du travail de réalisation, un gros travail ici, donc de mise en forme qui a été réalisé par Charlène Nouillou. L'idée c'était de faire se répondre certains des interviewés et également de faire de la mise en forme avec des transitions, de l'habillage qui a été parfois fait avec des contenus de Lina, c'est ça ?
Effectivement, avec des archives de Lina. Comme c'était produit par Lina, entre guillemets, fallait qu'on trouve des archives. Or, sur ces sujets-là, c'est quand même un peu compliqué d'en trouver. Et donc, on a eu l'idée avec Charlène, on a beaucoup réfléchi à comment réaliser une série qui porte justement sur ces problématiques très actuelles. Et au début, les premières idées qu'on avait, Charlène n'était pas encore dans la boucle, c'était de se dire, bon, est-ce qu'on met des bruits de modem comme dans les années 80 ou début des années 90 encore les modems. Et en fait, je me suis dit non, parce que c'est pas du tout dans la réalité de ce que c'est aujourd'hui. Et moi, je voulais justement qu'on soit dans les réseaux sociaux en 2019. Donc, j'ai un peu balayé ça et j'avais 2 envies. Un, que ce soit assez organique, qu'on le ressente, parce que ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire avec l'audio. Et la deuxième idée, c'est qu'on avait cette idée du théâtre, de la danse, du cirque aussi un peu. Et en fait, tout ça, c'est un peu entremêlé. Et Charlène a eu l'idée de trouver des documentaires animaliers et d'amener les animaux, de faire des comparaisons comme ça avec... enfin, des comparaisons. C'est pas vraiment des comparaisons, mais que chaque personnage comme ça ait un totem, un animal totem. Et en fait, je trouve que ça va à merveille, l'un avec l'autre. Parce que oui, c'est un monde un peu animal, en fait, quand même, ce qu'on y joue sur les réseaux. Et effectivement, Charlène à réaliser ça. Enfin, moi, j'adore son travail à Charlène, mais en même temps, c'est pas la première fois qu'on travaille ensemble, pas la dernière non plus. Et c'est vrai que nos deux univers fonctionnent bien.
C'est important, justement, oui, pour réussir cette alchimie sur un podcast.
Ah oui, moi, je suis persuadée de ça, et je pense que il y a beaucoup de travail d'ailleurs encore à faire là-dessus en podcast. Je pense que c'est vraiment comme en télé, les gens qui vont être auteurs, réalisateurs, et qui vont s'entendre à merveille avec leur monteur. Moi, j'ai ça avec Charlène, c'est-à-dire je lui dis « Ah, j'aimerais bien ça », et ce qu'elle me trouve, je me dis « Mais oh, c'est mille fois mieux que ce que j'avais espéré ». Donc ça, c'est... Et pour moi, vraiment, ça rend l'audio beaucoup plus audible, parce que mine de rien, c'est quand même 5 fois 38-40 minutes, selon les épisodes. Je sais, je suis pas dupe, je sais que c'est pas si simple de se dire, je vais aller écouter 5 fois 40 minutes d'audio, de documentaire audio. Et je trouve que dans sa réalisation, ce qu'elle permet, c'est que ça passe très vite, en fait. Il y a aussi tout un aspect très ludique. En plus, on a essayé de faire en sorte que ce soit ludique entre les gens qui parlent, avec des petits moments un peu rigolos, pour que justement, on reste, parce que ça, c'est l'enjeu principal, évidemment, de ce qu'on fait sur Internet.
Lorsqu'on fait une production éditoriale, quelle qu'elle soit, on se pose toujours, ou presque, enfin je l'espère, la question de la cible, du public auquel on s'adresse. Et là, en écoutant, je me suis dit, mais en fait, c'est un petit peu pour tout le monde. Alors que vie numérique et vie réelle sont de plus en plus interliées, il n'y a pas vraiment de public cible.
Non, c'est vrai. Alors, quand j'ai commencé, je me disais que c'était peut-être les gens un peu comme moi, enfin qui ont à peu près mon âge. Et puis, en fait, au fur et à mesure, j'ai discuté avec des gens qui avaient 50, 60 ans, qui étaient sur le projet, notamment Alina, et qui m'ont dit « Mais en fait, j'avais pas du tout compris que c'était ça, les réseaux pour les gens. » Et puis après, je l'ai fait écouter à une copine qui a 20 ans et qui me disait « Ah, c'est rigolo parce que ça m'a parlé. » Et puis, en fait, je l'ai fait écouter à des gens d'âge très différents qui s'y reconnaissent pour différentes raisons. Et ça, c'est assez rigolo. Parce qu'effectivement, généralement, je cible un peu plus que ça. Mais là, vous avez raison, c'était pas très ciblé.
Et je le disais en introduction, vous avez aussi préparé des stories Instagram qui accompagnent la sortie de chaque épisode. Là, c'était quoi ? Enfin, l'idée de toucher un public jeune ou alors juste de se dire, bon, c'est un format qu'il faut tenter ?
Non, c'est quand même d'aller chercher le public d'Instagram qui est de plus en plus nombreux.
Et qui écoute beaucoup de podcasts aussi.
Et qui écoute beaucoup de podcasts, j'espère qu'ils sont de plus en plus nombreux à le faire. Après, c'est toujours la problématique, l'audio, ça se partage pas très bien. C'est-à-dire qu'une vidéo sur Internet, vous l'envoyez hyper facilement sur les réseaux, les gens vont liker, même s'ils ont pas le son d'ailleurs sur leur téléphone, ils voient défiler le sous-titrage, etc. Donc la vidéo, on le sait, ça marche très bien, enfin ça se diffuse très bien sur Internet. Le son, c'est plus compliqué, et c'est notamment beaucoup plus compliqué en unitaire. Parce que quand vous avez une émission en podcast,
comme
l'atelier des médias, comme la vôtre, en l'occurrence, les gens, ils reviennent chaque semaine. Donc, en fait, ils vont se dire, ils savent que ça existe, et donc c'est un rendez-vous. Donc là, c'est, entre guillemets, plus simple d'aller chercher des gens que quand vous faites un documentaire, c'est 5 fois, mais après, il n'y aura pas de suite. Enfin, il n'y a pas de double vie 2. Donc,
c'est sûr, ça?
Je pense. Alors après, peut-être dans quelques années, si on a encore plein de trucs à en dire. Mais là, j'ai quand même dit pas mal de trucs. Hein. Faudrait que je trouve d'autres idées pour en faire 5 fois à nouveau. Mais ce que je veux dire, c'est que ça, c'est une vraie problématique de se dire comment on fait pour que ça aille dans les oreilles de gens que je pense ça peut intéresser, mais qui sont déjà abreuvés d'un milliard d'informations. Et comment on va jusqu'à eux? Alors ça passe par votre émission, par exemple, mais ça passe aussi effectivement par se dire quand ça sort, il faut absolument accompagner le podcast d'une communication sur d'autres réseaux, et notamment sur Instagram. Et pour ne rien vous cacher, je pense qu'on a encore pas mal de trucs à faire là-dessus, parce que pour des grandes entreprises comme Lina, comme Arte Radio, on a encore beaucoup à faire pour aller chercher les gens sur les réseaux ou ailleurs.
Merci Élodie Font. Alors, merci. Double Vie, c'est la série audio en 5 épisodes, est en écoute sur le site d'Arte Radio et les applications de podcasting préférées. À bientôt.
À bientôt, merci.
C'est tout pour cette semaine dans l'Atelier des médias. Merci à Simon De Creuse qui a réalisé cette émission. Et bienvenue dans l'équipe à Colin Gruel qui nous rejoint pour un an et était à la baguette de Mondoblog Audio cette semaine. Un salut aux équipes de Mondoblog et aux Mondoblogueurs et Mondoblogueuses actuellement mobilisés à Conakry pour la Coupe d'Afrique des Nations de football Maracana. N'hésitez pas à partager cette émission que vous pouvez, je vous le rappelle, écouter en version longue sur notre podcast. Je m'appelle Steven Jambeau et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure à la radio, pour un nouvel épisode de l'Atelier des médias.